vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 125. Les rosiers aériens de Françoise Urban-Méninger. Chers amis, bonjour. On va jouer avec deux fois la même chose qui se ressemblent mais sont pourtant bien différentes. Prenez la page d'un cahier. On dit une page vierge, toute blanche, parce qu'il n'y a rien, rien d'écrit. C'est une page de rien. Poussez la porte de la grille du grand jardin, vous savez, à la maison ou à la campagne, et regardez bien, que de l'herbe, pas un arbre fruitier, pas un carré cultivé, pas une salade, pas de rosier, même pas quelques radis qui pousseraient tout seuls. C'est un jardin où il n'y a rien. Vous imaginez une telle morne plaine dans votre petit coin d'Alsace ? Est-ce que ce serait un cauchemar? Bonjour Françoise Urban-Méninger.
Bonjour Ambroise.
Alors, vous êtes une fidèle, une habituée de notre émission, vous l'avez bien connue sur Radio Judaïca Strasbourg. Est-ce que le rien peut vous faire peur?
Non, le rien, la page blanche, ne me fait pas peur. Parce que la page blanche, le rien, appelle d'autres petits riens. Et ainsi de suite. Vous parliez de brin d'herbe, mais un brin d'herbe, c'est déjà quelque chose. Comme le disait De Vos, rem nous vient du latin, rem, c'est déjà une chose. Et trois fois rien, eh bien, c'est encore rien. Mais tous ces petits riens peuvent nous illuminer. Il y a d'autres petits riens qui nous peuvent nous faire grincer des dents. Imaginez une petite, un petit pépin
de raisin,
par exemple, oui, ou même de fraise entre deux dents. Eh ben, ça peut vous faire grincer des dents et amener une migraine. Donc, il y a des petits riens positifs et d'autres négatifs.
Alors, vous êtes une spécialiste des roses, en tout cas dans vos poésies.
Oui.
Oui. Alors, c'est un cliché pour le poète. Et je vous pose la question, vous qui publiez tant de beaux fascicules de poésie, la page blanche, le manque d'inspiration, le style qui reste en l'air.
Mais le manque.
Vous connaissez ?
Oui, bien sûr, le manque d'inspiration est déjà une forme d'inspiration. Je me souviens avoir animé des ateliers d'écriture avec des élèves qui étaient dubitatifs devant la page blanche. Et dehors, il y avait la neige qui tombait. Donc j'aurais dit, voilà, il y a quelque chose à dire, le blanc de la neige, le blanc de la page blanche. Et ils se sont mis à écrire.
Même s'ils n'avaient rien à dire ?
Même s'ils n'avaient rien à dire, il y en a un, je lui dis... Le premier vers, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à écrire. Et il s'est mis à écrire et il ne s'est plus arrêté.
Voilà. Bon, Marcel aussi, il a fait ça. Longtemps, je me suis couché de bonne heure et puis il a continué.
Oui, oui.
Et c'est génial. Alors, préférez-vous, dans un jardin, le foisonnement, hein, ou alors la sobriété?
J'aime bien les deux. Tout dépend de mon humeur. Dans mon jardin, il y a des coins sans rien, qui sont très calmes, et d'autres endroits qui foisonnent parce que j'aime la multiplication, les fleurs qui pavoisent, qui se démultiplient et qui reviennent différentes à chaque saison. On a d'abord les personnages, puis les tulipes, les cœurs de Marie, puis les ostaces.
Les cœurs de Marie.
Oui, les cœurs de Marie, qu'on appelle aussi les cœurs de Jeannette.
Ah, c'est quoi comme fleur? Vous pouvez la décrire?
Bah oui, c'est en forme de petits cœurs. Ce sont des grappes qui forment des petits cœurs. C'est très beau.
Parce que ça pousse au mois de mai qu'on appelle ça le cœur de Marie ou...
Peut-être. Oui, on les trouve avril, mai. Oui. Ça dure à peu près jusqu'au mois de juin.
Voilà. Et mais est-ce qu'un beau jardin... Alors moi qui suis très, comment on dit en français bordélique, je ne sais plus. Mais bon, mon bureau, il y en a plein partout. Moi, je verrais plutôt un jardin qui serait un jardin d'accumulation, hein, comme un vieux musée. C'est-à-dire que dès qu'il y a 10 cm² de libre, je planterai un petit truc pour que ça pousse, pour utiliser tout le terrain et faire un espèce de truc comme ça.
Ah non, les plantes, elles viennent toutes seules. Hein. Franchement, il n'y a presque rien à faire. Il y a eu des bulbes plantés il y a très longtemps par ma mère ou ma grand-mère. Et les plantes reviennent.
Elles reviennent.
Elles reviennent après la mort de ceux qui ont planté. Il y a un sapin qui est venu tout seul. Il y a un pommier de je ne sais pas où qui s'est plu et qui est venu tout seul. Il y a les arbres à papillons qui se déplacent parce qu'ils sont en compétition avec un laurier sauge. Et il les a poussés du côté de la grange. C'est assez intéressant de voir le jardin évoluer tout seul.
D'observer tout cela, oui. Oui. Alors, j'imagine, mais ça pourrait faire un roman, c'est de prendre 1 mètre carré de terre dans un terrain vague, par exemple, où en principe, il n'y a rien. Mmh. Et alors, venir avec un botaniste, un géologue, enfin, des grands spécialistes, et explorer, mais vraiment millimètre par millimètre, un mètre carré de rien, de terre. Mmh. Je suis sûr qu'on trouve des asticots, il y a toute une vie. Puis alors, si on descend jusqu'à 20 cm sous terre, je suis sûr que ça doit être que le rien est plein.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Oui. Bah ça, c'est la philosophie chinoise. Hein. Le vide et le plein, on y revient. Et heureusement qu'il y a des vers de terre, hein, parce que ça nettoie la terre.
Ben oui. Et puis, il y a des graines qui viennent d'ailleurs, poussées par le vent, les oiseaux, les trains qui remontent. Je sais qu'à Wissembourg, il y avait des plantes exotiques sur un terrain vague derrière la gare. Donc, c'était assez étonnant. Et donc, je demande à un spécialiste comme ça, très sympa. Il me dit, oui, les graines restent collées les jours de pluie sur les locomotives, sur les wagons. Et ensuite, elles tombent et elles se mettent à pousser. Et donc, on avait des plantes provençales à Wissembourg. Bon, elles n'ont peut-être pas tenu l'hiver, parce qu'il fait plus froid, mais donc c'est assez intéressant de voir comment ça se promène, ça se balade. Il paraît que les oiseaux transportent même des poissons. Il y avait une petite mare artificielle qui a été créée, et ensuite il y a eu des poissons. On s'est dit, mais comment ils ont fait, c'était pas des poissons volants? Eh bien, c'est les oiseaux qui les prennent, qui les lâchent, et ils se reproduisent. C'est formidable, la nature.
Ah oui, c'est merveilleux.
Alors, est-ce qu'une page blanche, c'est aussi merveilleux?
Une page blanche, oui, parce que plus on s'enfonce dans cette blancheur, plus on retourne à la source de soi-même. Et peut-être qu'il y a des choses qui reviennent à la surface. Et voilà, c'est de se ressourcer aussi et revenir aux origines. Il y a des images qui reviennent de l'enfance sur la page blanche. Ça anime comme un écran.
C'est l'écriture thérapie, ça?
Pas vraiment, non, je ne pense pas que c'est une thérapie. Non. On a tous des images qui nous restent de l'enfance.
Oui. Oui,
ce n'est pas une histoire de thérapie. Oui. Le blanc, si on dit blanc et qu'on demande à des gens d'écrire sur le blanc, ils vont peut-être évoquer le tablier blanc d'un médecin ou le tablier qu'il portait à l'école, parce que j'ai dit sur
la mère Denis aussi.
La mère Denis, oui, pourquoi pas.
Vous savez ce que disait Coluche pour se moquer de cette publicité? Alors, je raconte pour les auditeurs qui ont moins de 50 ans, c'était une publicité à la télévision où on voyait une bonne dame bien paysanne et tout, avec son tablier et qui tapait le linge dans
planche,
la rivière, et la mère Denis arrivait à avoir un blanc plus que blanc, enfin la publicité. Alors Coluche, il disait, pour moi aussi, c'est tellement blanc que c'est transparent.
C'est
voilà,
pas mal.
Voilà, pour se moquer.
Ah, je me souviens, cette publicité.
Voilà, mais le blanc, alors si on prend une feuille de papier et qu'on creuse comme un terrain, ben, on fait un trou.
Oui, on peut faire un trou, effectivement.
Oui.
Mais
alors, on avait évoqué dans l'émission précédente, en musique, le trou, hein, John Cage, qui fait l'émission qui dure 4 minutes 13.
Voilà.
Mais en littérature, laisser 5 pages de blanc entre... vous faites 10 poèmes... Hein, dans un recueil de 20 poèmes, et puis vous laissez 5 pages de blanc.
Mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je n'aime pas du tout cette poésie hermétique, pas du tout.
Non.
Mais oui, et par contre, on a cité John Cage, mais il y a aussi des peintres. Il y a eu des expositions dans des galeries où il n'y avait rien.
Oui.
Il n'y avait que des murs blancs. Alors là aussi, ça... Voilà.
Oui, c'est une mode. Et il y a des gens qui l'achètent en plus.
Ah oui, 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 il y a des gens, voilà, c'est du snobisme. C'est, pour moi, c'est, ce n'est rien, mais dans le sens négatif. Oui. Parce qu'il y a un rien positif, c'est comme les électrons. Il y a des riens positifs, les petits riens qui illuminent nos journées. Alors là, je pense beaucoup à Albert Strickler, un poète que j'aime beaucoup, qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et qui parlait de rien somptueux. Parce qu'une petite goutte d'eau sur un pétale de rose, cette lumière-là, c'était un rien somptueux. Ces petits riens-là sont les riens nobles de la poésie.
Vous avez évoqué les électrons, hein, et puis les neutrons et tout ça. J'ai lu, parce que j'ai voulu me renseigner sur le rien quantique. Alors quantique, QU, hein,
c'est oui, pas... Oui, j'ai compris.
Voilà. Non, moi j'ai dit ça parce que je me moque de moi-même.
Oui.
Parce que bien sûr, j'avais cherché avec un C d'abord, et puis j'ai pas trouvé.
Ah, oui.
Oui, ben voilà, c'est comme les îles Hébrides.
Mais,
ça commence
mais
pas
poétique.
Par Z.
C'est
mais
poétique,
oui, c'est poétique.
Un rien quantique,
voilà.
Un quantique, un chant, pourquoi pas?
Eh ben...
Ben voilà, c'est une recherche poétique.
Tous les neutrons, les électrons, c'est que du vide, avec une petite paroi. Sauf qu'ils se cognent entre eux et donc ils ne peuvent plus passer et ça fait du solide et ça ne passe pas. Mais si on arrive à ordonner tous ces neutrons dans le même, pour qu'ils tournent dans le même sens, donc à moins 250 degrés centigrades à peu près et tout, vous versez votre liquide dans un verre, il traverse le verre et il passe de l'autre côté.
Très bien. Bah, là
ça,
aussi, on peut passer à travers la page blanche. Ça peut être comme la traversée du miroir dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. On passe de l'autre côté des mots. Et c'est le titre de l'un de mes recueils, de l'autre côté des mots.
Et ben voilà,
où
on
explore.
À la poésie.
Bah, la poésie,
de
elle est là.
De l'autre côté des mots.
Ben oui.
Alors, et mots, ça peut être D'E-M-A-U-X. C'est joli, des émaux.
Oui, des émaux,
hein, faire des bagues ou des...
J'ai fait ça, jadis, quand j'étais scout.
Oui.
Ça remonte loin.
Les émaux chez les scouts.
Oui.
Sinon, moi, chez les scouts, qu'est-ce qu'on faisait comme bricolage? Oui, on découpait du balsa pour faire des planeurs, mais ça n'a pas duré longtemps.
On faisait des sacs en ficelle aussi, ce genre de choses.
Voilà. Puis avant, à l'école maternelle, on faisait des colliers avec
des nouilles.
Des nouilles pour la fête des mères.
Oui, voilà. On a connu tout ça. Hein.
Voilà.
Mais ça, son charme. C'est une forme de poésie aussi.
Et puis, et c'est difficile à jeter.
On
les retrouve 50 ans après dans une boîte au grenier. On n'a pas envie de le jeter, on le garde, c'est bien. Bon, heureusement, nos enfants s'en débarrasseront, ça.
Bah, pas toujours, hein, parce que j'ai retrouvé dans la vieille ferme que j'ai récupérée un petit nain, enfin, c'était un pot pour une plante que j'avais peint il y a très très longtemps, quand j'étais en CP. Hein,
ah ben voilà.
Et qui avait été gardé
jusque-là,
hein,
précieusement. Oui, bien sûr. Oui, voilà, comme les premiers dessins qu'on fait à 2 ou 3 ans, ou 4 ans, il faut les garder. Oui, on ne sait jamais. Alors, imaginons maintenant la grande mode, hein, c'est des drones. Les gamins, à 5-6 ans, ils veulent déjà des drones et tout. Donc, vous êtes avec un drone, puis vous avez une caméra avec le drone, donc, et vu d'en haut, on voit votre jardin. Parce que le jardin, bon, vous faites un beau jardin, mais on le voit à 1,75 m. Mmh. On peut monter sur une échelle pour voir un peu, mais plus loin, mes trucs. Mais si vous composiez votre jardin comme un tableau, hein, alors ce serait pour le bonheur des oiseaux, mais vu d'en haut, est-ce qu'on peut imaginer? Donc ça veut dire qu'après, il faut faire un effort de perspective dans la tête, mais... Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à ça alors, le jardin à l'anglaise et le jardin à la française, très symétrique, classique.
Ben non, mon jardin, c'est un jardin à la françoise, comme mon prénom, parce qu'il est il est un peu fou, ce jardin.
Ah, j'ai trouvé le mot, que je prononçais un gros mot avant, mais je voulais dire le bazar. Et non,
je
pas
pense
le...
pas que ce soit
non,
le bazar parce que
non.
Les plantes s'acclimatent toutes seules. J'en récupère souvent, je crois l'avoir déjà dit ici, dans des composts, hein, mm-hmm. Parce que je me souviens en Allemagne, j'avais vu dans des composts des plantes et les gens jettent les plantes encore vivantes mm-hmm. avec les racines. Donc j'avais demandé au gardien, j'avais dit des Pflanzen sind nur lebendig. Enfin, je sais pas très bien en allemand, mais il était tout à fait d'accord. Et donc j'ai pu en récupérer. Et les replanter. Oui. Et je pense que ces plantes sont très reconnaissantes parce que ce sont celles qui résistent et qui continuent
alors,
à pousser.
Si vous voulez bénéficier de la reconnaissance de vos pères, P-A-I-R, poètes et tout, Le compost des écrivains ou des poètes, c'est quoi ?
Le compost des écrivains, des poètes, oh, ce sont peut-être des notes dans leurs journaux. Là, j'ai relu cet été le journal de Sylvia Plath. On y trouve énormément de petites notes lumineuses, ou chez Anaïs Nin. Dans les journaux des poètes, oui, souvent, on trouve des débuts de poèmes, des petites graines qui n'ont pas complètement germé.
Chez Flaubert, les fameux carnets, Flaubert ne jetait pas une feuille de papier, voilà, j'adore bien, répéter ça. Et ben, on retrouve ce qu'on appelle ensuite la génétique des textes et tout. Alors, moi, mon compost, c'est les dictionnaires des mots rares et précieux. En 10-18. C'est génial. C'est un millier de mots qu'on n'utilise plus, on devine le sens grâce à la racine, ou alors on cherche dans le dictionnaire, ou alors la Larousse du 19e siècle. Je dis toujours, il faut beaucoup de place pour l'avoir, mais si on a le bonheur d'avoir de la place et tout, et on cherche un mot, de toute façon, avant de le trouver, on en lit 15 autres. dont on ne connaît pas le sens et qui vont vous inspirer. Et puis, donc, l'esprit par ailleurs. Et il faut, au lieu de faire un texte en une heure, on met quatre heures. Mais c'est formidable. Et ça, c'est effectivement comme les graines que vous récupérez dans un compost. C'est des mots qu'on récupère comme ça et qu'on s'amuse avec un peu de snobisme peut-être à placer dans un mot. Voilà.
Et ben hier, j'ai retenu un nom à la BNU parce que j'étais voir l'exposition Le Concert des Anges, que je recommande d'ailleurs, parce qu'il y a plein de noms d'instruments de musique que je ne connaissais pas du Moyen-Âge. Et j'ai retenu le nom d'un monsieur qui avait fait repeindre la voûte de sa chapelle. Et il s'appelle Philibert Chantemerle. Et ce nom, rien que ce nom, fait rêver. Je crois que je l'utilise dans l'une de mes nouvelles.
Chantemerle, oui.
Alors c'est beau, hein ?
Ça fait penser à Hugues... Non, comment il s'appelle ? Jules Renard.
Hein,
il a des noms comme ça, un petit peu. Clochemerle, voilà.
Clochemerle, oui.
Clochemerle, c'est... Ding, ding, ding. Clochemerle. Bon, oui, chers auditeurs... Ça. Vous pouvez nous envoyer une carte postale.
Je dois l'avoir.
Vous gagnez un porte-clés de Radio Judaïka Strasbourg. Nous sommes presque en direct avec Françoise Urban-Méninger et nous cherchons l'auteur de Clochemerle, je le sais, mais bon.
Mais moi aussi. Voilà.
Alors, passons aux mots rares et précieux. Taupière, l'art taupière. Alors, vous savez ce que c'est ?
L'art taupière C'est l'art de creuser sous les mots, non ?
Non. T-O-P-I-A-I-R-E. C'est cisailler dans les bosquets, les arbustes,
bien, oui.
Pour créer un jardin très géométrique. Avec, souvent, on utilise du buis ou des
formes d'animaux. On crée des formes d'animaux, ce genre
voilà,
de choses.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais moi, je creusais déjà sous les mots. J'étais déjà partie ailleurs. Je pensais à la taupe. Voilà, souvent, je dérive à partir d'un mot.
Ben oui.
Et... voilà ce qui arrive avec la poésie.
Voilà. Alors, Descartes a dit, parce qu'en préparant un petit peu, hein, je lis beaucoup de choses, « Nous rendre comme maître et possesseur de la nature. » Pour faire un beau jardin, hein, donc il admirait donc, les jardins à la française, hein, déjà, ça commençait déjà à cette époque. « Nous rendre comme maître et possesseur de la nature. » Donc, c'est l'inverse de l'humilité du jardinier l'herbe qui pousse.
D'ailleurs, on est de moins en moins d'accord avec cette phrase-là, puisque la nature reprend ses droits un peu partout. Hein, il n'y a qu'à voir catastrophes climatiques.
Oui, même sur les places de stationnement à Strasbourg.
Oui, la nature reprend ses droits. Elle a bien raison. Il y a des plantes qui poussent un peu partout.
Et les gens qui ont mal aux jambes ne peuvent plus se garer. Mais bon, non, c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose, je pense.
Oui, c'est autre chose. Oui, mais la nature reprend ses droits, oui, c'est vrai, sauf que la pollution fait...
Les arbres, quand même, luttent contre la pollution.
Mais à Strasbourg, au centre-ville, on ne voit plus de sauterelles, des hannetons...
Ça fait longtemps.
Mais de mon temps, à la fin des années 50 et tout, il y avait ce genre de bestioles.
Mais on les a supprimées avec les insecticides. Mais pour les hannetons, c'est vrai que c'était sympathique.
C'est la faute des paysans.
Les hannetons dévoraient les récoltes. Hein. Il faut voir le côté aussi. C'est
On envoyait les enfants ramasser les doryphores sur les pommes de terre.
Oui.
Voilà. Alors, Pline le Jeune et Virgile mentionnent l'art de tailler son jardin dans la Rome antique, déjà. C'est, donc, ça veut dire que la beauté un peu gratuite de faire un beau jardin, ça, les radis ne poussent pas mieux si le jardin est bien ordonné. C'est pour son plaisir.
Oui, c'est pour le plaisir des yeux ou bien avoir de l'ordre. On dit que l'ordre extérieur symbolise l'ordre intérieur de la personne, qu'elle est bien calée dans son esprit. Mais est-ce vraiment certain?
Oui, on en revient alors du nouveau à la... Pas la psychanalyse, mais quand même à la thérapie, non? Un petit peu comme ça, non?
Enfin, pour moi, la poésie n'est pas une forme de thérapie.
Mais les médecins canadiens, ça a fait la une des journaux pendant un certain moment, ils font des ordonnances, donc ils prescrivent à leurs patients d'aller se promener dans la nature. Plutôt que de prendre des
sylvothérapie
et tout ça.
Oui. Bah oui, il y a la sylvothérapie, se reconnecter avec les arbres. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Oui. Bon, alors, dans l'écriture, comment passe-t-on de rien à... Alors, est-ce qu'on dit tout quand la page est remplie? Quand est-ce que vous savez que votre texte est terminé et que vous allez pouvoir le publier?
Ça, il faut y revenir plusieurs fois. Il y a des textes qui viennent tout seuls, mais d'autres, il faut y revenir durant 3 jours. Il faut aller vers les purs. Ce n'est pas si facile. C'est peut-être plus simple dans une nouvelle, puisque j'écris aussi des nouvelles. Et dans les nouvelles, vous parlez de thérapie, c'est plus une thérapie de quand on écrit une nouvelle, parce que ça peut être sous le coup d'une colère ou une injustice.
Ou une commande de l'éditeur.
Ou une commande, ou un concours, ou voilà, ce genre de choses. Mais derrière la page blanche, il y aura toujours une autre page blanche, et ainsi de suite, à l'infini. On pense à Leopardi, infinito.
On laisse dormir le texte, on le reprend, on le réécrit. Oui, Georges Perec avait fait ça.
Oui, bien sûr.
Formidable. Une fois par mois, je crois, il allait à la même place pour décrire la même chose et tout. Il mettait dans une enveloppe et après, il a ouvert les 12 enveloppes au bout d'un an. Il a comparé les textes et c'est formidable de voir comment son regard évolue, son écriture évolue et sa perception des choses aussi évolue. Et ça, c'est intéressant et c'est de l'écriture. C'est de la littérature, oui. Donc, la page blanche ne vous fait pas peur. Vous allez... est-ce que vous remettez sur l'ouvrage constamment les choses? C'est-à-dire, vous laissez dormir, je ne sais pas, vous n'avez pas d'éditeur, vous faites autre chose, vous partez en voyage, vous revenez, vous reprenez votre texte, vous allez le lire et vous allez vous dire « Mon Dieu, c'est pas bon, je vais retaper dedans, je vais recommencer.
» Au moment de publier un recueil, oui, j'y reviens. Mais j'ai un blog aussi qui s'appelle « L'heure du poème » et je tiens beaucoup compte des commentaires de mes lecteurs. Je trouve que c'est très important.
Et parce que c'est sur Internet, alors.
Oui, c'est sur Internet. Et il y a des commentaires qui m'aident beaucoup, qui peuvent m'influencer. Je vois, il y a des poèmes, il n'y a aucun commentaire. Je me dis, tiens, c'est curieux. Et puis d'autres, une avalanche de commentaires, des poèmes que j'ai moins aimés, que j'ai écrits.
Les commentaires, il ne faut pas les diviser en deux, ceux des amis qui...
Non, c'est des gens que je ne connais pas du tout.
Ah oui.
D'ailleurs, je le dis peu que j'ai un blog. C'est des gens que je ne connais pas du tout, qui écrivent aussi sur ce blog. C'est un peu de briques et de broc.
C'est
un blog tout simple.
C'est très sympa.
Oui, c'est sympa.
Voilà. Écoutez, de briques et de broc, c'est une très bonne conclusion pour notre émission.
Voilà. Très bien.
Alors, c'était l'épisode numéro 125 de « Vous l'avez bien connu, les rosiers ». Alors, rosiers, parce que dans rosiers, aérien, parce que ça vole un petit peu, et puis dans aérien, il n'y a rien. Donc, c'était pour retomber
sur... Un jeu de mots,
et puis c'est le sujet de nos émissions, le rien. Donc, « Les rosiers aériens » de Françoise Urban-Méninger. Alors, est-ce que vous publiez bientôt un nouveau livre?
Oui, Le Calice de l'Azur, ce sera un recueil de poèmes, mais un recueil de nouvelles, ça fait longtemps que je n'avais plus publié, qui s'appelle La tasse de thé et autres nouvelles. parce que moi, je pars souvent de, pour une nouvelle d'un c'est, petit rien.
C'est une tasse où vous mettez plein de consonnes, dont le thé.
Non, je suis partie. Ben, ça, c'est une nouvelle éponyme. Ce n'est pas ma tasse de thé. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui disait toujours que ce n'est pas ma tasse de thé. Et à partir de là, j'ai écrit une nouvelle. Une petite dame dans une maison de retraite qui voit sa tasse de thé devant elle et qui dit « Ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas ma tasse de thé. » Et la nouvelle s'enclenche.
Voilà. Merci Françoise Urban-Méninger. Vous l'avez bien connue tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Alors la semaine prochaine, nous poursuivons notre exploration du rien avec Marc Schauder, qui est philosophe et écrivain, lauréat en 2016 de l'Académie Rhénane. Un de ses ouvrages se nomme « Nudité du pèlerin ». Alors la nudité, est-ce que c'est une façon de n'avoir rien? Vous l'avez bien connu à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin. Like you and I. No connection between them whatsoever.